moment pour la Terre, notre émission mensuelle avec France Nature Environnement. Bonjour Lisa et bonjour Pierre Gottardi, vice-président de France Nature Environnement.
Bonjour Odile.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accueillir comme tous les derniers mercredis du mois chez vous. Nous, avec Pierre, nous représentons France Nature Environnement des Alpes-de-Haute-Provence. Nous sommes la fédération départementale des associations de protection de la nature. Nous intervenons sur tout notre département, nous travaillons sur tous les sujets en lien avec l'environnement. Tout nous intéresse. Et notamment, nous travaillons beaucoup sur les sujets en lien avec la biodiversité, en lien avec l'eau, avec les milieux naturels. Et aujourd'hui, avec Pierre, nous sommes là pour parler de la sécheresse, puisque bon, cette année, tout le monde a été touché, toute la France a été touchée, tout le monde s'est rendu compte du fait que l'eau, ce bien précieux, il peut nous manquer. Mais du coup, avec Pierre notamment, on avait l'impression que plus on avance vers l'automne, l'hiver, moins on en parle et plus on a l'impression que bon, il a plu. Ces quelques dernières semaines, on a eu quelques jours, il y a eu des nuages, des pluies, et que du coup, on a l'impression que tout va bien. Et pourtant, rien ne va. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a voulu avec Pierre faire cette émission au mois de novembre, puisque déjà pour rappeler quelle est la situation actuelle, la situation de cette année, et aussi du coup pour discuter un petit peu de l'impact de la sécheresse, des changements climatiques sur notre territoire, sur les milieux, sur la ressource, et évidemment arriver à la fin à quelques idées par rapport à comment on peut faire pour améliorer la situation et surtout pour anticiper les changements à venir. Donc c'est vrai que cette année, elle a été vraiment particulière. C'est l'année des records, même au niveau de l'Europe. C'est l'été le plus chaud jamais enregistré en Europe, selon une étude qui a été sortie par des scientifiques. On a des records de chaleur pour le mois d'août, mais également pour l'été entier, pour l'Europe. Et du coup, partout aussi en Europe, il y a eu des problèmes. La hausse des températures, évidemment, problème de sécheresse. Et les rivières étaient au niveau, un des niveaux les plus bas jamais enregistrés. Évidemment, également des problèmes d'incendie. Et aussi pour vous dire que, bon, c'est l'année record, mais l'année record précédente, c'était 2021. Donc ça veut dire qu'on a deux années d'affilée où on a des événements, des phénomènes extrêmes qui se produisent, notamment en été. Et du coup, en France, on a vécu 33 jours de canicule en tout, avec trois vagues de chaleur. Une vague de chaleur, en fait, c'est quand, pendant plus de trois jours, on a les températures supérieures à la normale de plus de 5 degrés. Et on en a vécu trois cet été. Enfin, personnellement, j'avais l'impression que c'était une seule grande vague de chaleur. Je ne savais pas quand l'une terminait et quand l'autre commençait. Et du coup, au niveau de la France, cet été, on a eu la totalité de nos départements qui ont été concernés par les restrictions en lien avec l'eau. Donc vous savez peut-être, il y a des stades d'alerte différentes quand on se retrouve en situation de manque d'eau. Donc le premier, c'est le stade de vigilance. C'est le stade gris. Donc, alors, on n'a pas encore de restrictions, mais c'est fortement conseillé de faire de la sensibilisation, de l'information, en partant toujours de l'idée qu'il vaut mieux essayer de mettre en place les choses avant que la catastrophe n'arrive. Et ensuite, donc, du coup, on a les trois stades où vraiment on va avoir des restrictions plus ou moins strictes. Alors, le stade jaune, c'est le stade d'alerte. Alors, on commence à avoir certaines restrictions. C'est pas encore, ce sont pas encore des restrictions très importantes, mais on commence à réduire un peu les prélèvements. Au niveau agricole, on réduit jusqu'à 20% les prélèvements. Et surtout, il est interdit d'arroser dans la journée pour éviter l'évaporation directe de l'eau qu'on utilise pour l'arrosage. Donc d'habitude, on peut arroser, mais entre 19h et 9h. Ensuite, on a le stade orange. C'est le stade d'alerte renforcée. Donc là, ça veut dire que... Bon, évidemment, ça veut dire qu'il reste encore moins d'eau dans nos cours d'eau. Et on a des restrictions restrictions un peu plus poussées. Donc, on commence vraiment à avoir des limites, des restrictions plus importantes, des limitations, des interdictions d'usage pour tout ce qui est des activités sportives ou ludiques qui sont moins importantes. Les particuliers peuvent continuer à arroser, mais sur uniquement leur potager. Donc, quelque chose qui est vraiment utile. Donc, il faut vraiment qu'on arrête d'arroser les pelouses, les stades. Et du coup, il faut qu'on arrête de nettoyer, par exemple, les façades des immeubles avec l'eau. On coupe les fontaines. Il y a l'interdiction de remplir les piscines. Et quand vraiment ça ne s'améliore pas, donc ce sont les mesures effectuées très régulièrement par les services de l'État, par la DDT, pas que, mais souvent par la DDT. Et du coup, on peut arriver au stade de crise, donc c'est le stade rouge, où vraiment on laisse que les prélèvements essentiels, que ceux dont on a vraiment absolument besoin. Donc là, c'est le stade qui est vraiment très grave. C'est le stade qui nous laisse nous inquiéter beaucoup par rapport à par rapport à l'avenir. Voilà. Et donc juste après ce rappel, juste pour vous dire que cet été, la totalité des départements français étaient concernés par un de ces stades d'alerte à la sécheresse. Donc les 96 départements français, on avait très peu été en stade de vigilance. Mais tous les autres étaient en stade d'alerte, alerte renforcée ou crise. Et du coup, là, dans notre département, c'est à partir du 10 mai 2022 qu'on a été placé déjà en vigilance sécheresse, déjà au mois de mai, avant même techniquement que l'été n'arrive. On le savait déjà, c'est que Pierre vous avait toujours dit qu'après l'hiver qu'on a eu, où on a déjà eu un manque de précipitations, le début de l'année, on a aussi déjà eu le manque de précipitations en fait, sur notre région. Déjà en début de l'année, on a eu 30% en moins de précipitations que normalement. Les nappes n'ont pas été remplies, pas de précipitations en hiver, ça veut dire moins d'accumulation de neige, donc moins de fonte de neige, donc moins d'apport d'eau dans les rivières. Et du coup, la situation a été très compliquée cet été, avec beaucoup de cours d'eau dans notre département en alerte renforcée aux crises. Et actuellement, cette situation, elle continue. En France, on a 47 départements qui sont concernés par un de ces trois stades avec les restrictions de prélèvement. Et au niveau de notre département, on a encore deux cours d'eau qui sont en crise, le Calavant et le Largue. On a quatre cours d'eau en alerte renforcée. C'est Artubie-Jabron, le Colostre, le Lauzon et la Nesque. Et on a encore quatre cours d'eau en alerte. C'est l'As, le Vençon, le Var et le Verdon. En gros, ça veut dire que 122 communes sur 200 sont concernées, toujours concernées par les restrictions.
Oui, je voulais simplement compléter ce que vient de dire Lisa. En termes de pluviométrie, l'automne est la saison la plus productive en termes de pluie. En principe, c'est l'automne, la fin de l'automne, octobre-novembre. Donc l'année passée, en 2021, on n'a pas eu très peu de précipités en automne. On n'a pas eu de précipitations hivernales, on n'a pas eu très peu de neige, puisque sur le Haut-Verdon, les stations ont eu beaucoup de mal à fonctionner du fait du déficit en neige. Et au printemps, on n'a pas eu non plus les précipitations attendues, sachant que historiquement, le mois productif au printemps, c'est le mois de mai. Et en fait, on n'a pas eu grand-chose, donc il nous manquait beaucoup d'eau qui n'était pas tombée. Et donc, dès fin mars, on savait qu'on allait avoir une saison difficile. Et donc, les services de l'État qui suivent les niveaux des cours d'eau, des nappes, EDF suit les niveaux des barrages. La DREAL suit un certain nombre de points aussi, la direction régionale de l'équipe de l'environnement. Et puis, on a aussi le BRGM qui suit les nappes, l'évolution des nappes. Et donc, en concaténant toutes ces données, en analysant tout ça, on s'est aperçu qu'effectivement, on allait être vraiment mal pour la saison estivale. Moi, ce que j'ai reproché, et je l'ai dit d'ailleurs lors d'une réunion du GECO, c'est qu'on aurait dû faire de l'alerte de la population beaucoup plus tôt. Moi, je pense que fin mars, début avril, on aurait pu vraiment commencer à sensibiliser les gens, ce qui n'a pas été le cas. Donc, on a déclenché la vigilance sécheresse au mois de mai, comme l'a dit Lisa. Mais comment dire, il n'y a pas eu, moi je trouve qu'il n'y a pas de campagne d'information suffisante au niveau des individus, quoi. Et donc les gens disent, bon, t'es en vigilance, oui, en vigilance, mais si on ne dit pas aux gens qu'il manque 50% de la retenue, sur le, à titre indicatif, sur le Verdon, à Saint-André-les-Alpes, au mois d'avril, on était au minimum historique. C'est-à-dire que EDF avait des débits, mesurait des débits dans le cours d'eau pour remplir le lac de Castillon, puis dessous ceux qui sont en dessous, Sainte-Croix, etc. Comment dire, ils avaient des débits qu'ils n'avaient jamais vus à cette époque-là, quoi. Donc ça veut dire qu'on allait vraiment être très mal sur le stockage. Comme sur après, ça s'est passé sur Serre-Ponçon, où on a atteint des abaissements de plans d'eau qu'on n'a jamais vus. Et donc, et c'est ça qui me semble important, c'est d'alerter les gens, quoi. Et là, effectivement, il a plu. Alors, je sais que les Dinois, quand il pleut trois jours après, ils sont lassés. Mais on n'a pas récupéré le déficit. Et donc, s'il pleut pas beaucoup, s'il neige pas beaucoup cet hiver, s'il pleut pas beaucoup au printemps, l'été prochain, l'été 2023, va être dramatique. Et c'est pour ça que, on disait tout à l'heure, on fait ça maintenant, parce que je pense qu'il faut continuer à marteler ce discours sur le fait que on n'est pas bien sur là, et on est directement impacté, et ça c'est directement lié au changement climatique, hein, la remontée du manteau neigeux. Moi je l'ai vécu, ça fait 30 ans que j'habite à Digne, on le voit chaque année remonte un peu plus, quoi. Là la limite plus neige est à 1500, 1600 mètres. Bon, moi j'ai connu des hivers à Digne où on avait la neige à Digne.
Voilà.
Et ça c'est quand même bien un effet du réchauffement moyen. Mmh. Alors juste une petite précision sur le réchauffement climatique, il faut quand même savoir que dans les Alpes, là où on habite, en Digne ou en Brun, etc., on a déjà pris 2 degrés, voire 2 degrés et demi de température moyenne. Mmh. Le Rhône, qui est quand même la rivière du quart sud-est, il a pris 4 degrés depuis 1960. 4 degrés. Donc vous imaginez l'impact sur les populations piscicoles, par exemple, les poissons, mmh, qui sont extrêmement sensibles à la température de l'eau. Voilà. Continue.
Oui, ben justement, Pierre, je voulais vous poser la question, puisque vous savez, on entend souvent parler des nappes, des rivières, des nappes phréatiques, et souvent on peut entendre ce discours dans notre département. On dit, bon, d'accord, il n'y a pas d'eau dans la rivière, mais on sait que l'eau s'infiltre dans la nappe et que les nappes peuvent être en meilleur niveau, dans un meilleur état que le cours d'eau, et que du coup, bah, ce n'est pas grave, on peut continuer nos activités, on peut continuer à avoir suffisamment d'eau grâce aux nappes. Et je sais que vous connaissez bien ce sujet, donc est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des nappes et de leur lien avec les cours d'eau ?
Alors il y a deux types, il faut savoir qu'il y a deux types de ressources souterraines, hein. On a les eaux, donc les nappes de surface qui sont en contact avec la rivière, donc on a sur la Bléone, sur l'As, sur le Largue, enfin sur la Durance, on a des nappes d'accompagnement qui sont à la fois alimentées par la rivière ou qui elles-mêmes alimentent la rivière dans certains cas, mais qui sont aussi alimentées par les versants, hein, l'eau qui vient des versants montagneux. Et puis après on a des eaux profondes, qui sont des eaux souterraines, qui sont beaucoup plus profondes. Et là, dans le département, on a effectivement des zones où on sait qu'on a de l'eau souterraine. Par exemple, la montagne de Lure, qui est un karst calcaire, alimente la fontaine de Vaucluse. C'est la plus grosse résurgence, je crois, européenne qu'on a. Hein. Et c'est uniquement de l'eau d'infiltration dans le massif de la montagne de Lure qui est drainée vers la fontaine de Vaucluse. Donc, les nappes qui sont en équilibre avec les rivières, elles ont des capacités, certes, mais elles ont des capacités très limitées. Puisque, c'est en équilibre avec la rivière. Donc, s'il y a moins d'eau dans la rivière, il y a forcément moins d'eau dans les nappes. Et c'est depuis 2 ans ou 3 ans, l'État, les services de l'État avec le BRGM suivent le niveau des nappes pendant la sécheresse. Et, on s'aperçoit que le battement annuel des nappes, il est relativement limité sur l'As ou sur la Bléone. Le battement, c'est 1 mètre par an. On pourrait imaginer beaucoup plus. En fait, c'est pas beaucoup. Et cette année, on est arrivé à des minima et qui nous remontent. C'est qu'on a atteint des valeurs qui ne remontent pas. C'est-à-dire que malgré la pluie qu'on a eue, les nappes remontent très très peu. Ça veut dire que cet aquifère qui d'habitude alimente la rivière à travers des adoues, à travers des résurgences, etc., en fait, elle joue plus son rôle parce qu'elle est trop basse. Et les pluies sont pas suffisantes pour les faire remonter de manière significative. Et sur les eaux souterraines du type karst, etc., on s'aperçoit au fil du temps qu'avec la diminution des précipitations, les karsts baissent en niveau. C'est-à-dire qu'il y a moins d'alimentation de surface, donc quelque part, les nappes souterraines, elles baissent aussi naturellement. Et on l'a constaté. En début de saison, par exemple, au mois de mai, dans certains alpages du département, où il y a des sources en altitude pour alimenter les troupeaux, il y a beaucoup de sources qui ont disparu, qui n'étaient pas alimentés cette année. Moi, j'ai rencontré des gens dans le 06 où les bergers sont partis très tôt, à partir du 15 août, parce qu'il n'y avait plus d'eau pour alimenter les troupeaux. Donc, s'il n'y a plus d'eau pour le berger ni pour les troupeaux, c'est difficile. En plus, l'herbe était très sèche, il n'y avait pas grand-chose à manger. Les gens sont descendus beaucoup plus tôt des montagnes, quoi. Et ça, c'est un phénomène général, parce qu'il faut savoir quand même qu'on perd de la pluie depuis 60 ans. On perd petit à petit de la pluie. Sur le département, on a déjà perdu au moins 50 mm de pluie en moyenne. Donc et ces 50 mm, ils ne sont pas dans le sol. Ils ne sont pas dans les aquifères. Ils ont disparu, quoi.
Quelle est la recette miraculeuse qui va nous sauver ? Est-ce qu'on peut filtrer l'eau de mer ?
Alors c'est la fausse bonne idée. Pourquoi ? Parce que la mer, c'est un écosystème comme un autre. Si les populations consomment toute l'eau douce des cours d'eau et n'en rejettent plus la mer, elle va continuer à s'évaporer, donc à se concentrer. Et donc, un jour ou l'autre, d'ailleurs, c'est ce qui se passe, puisque la Méditerranée est beaucoup plus salée que l'océan, par exemple. Donc, alors, c'est vrai qu'on a des volumes gigantesques, mais il n'empêche quand même qu'on perturbe des écosystèmes importants. En plus, les techniques de dessalement d'eau de mer, c'est des techniques qui coûtent très, très cher, qui ne peuvent pas être mises en œuvre par n'importe qui. Et c'est forcément, et là je vais faire un petit peu mon côté politique, c'est forcément des gros groupes, je citerai personne, voilà, qui vont s'attaquer à ça et qui font en payer un service très très cher. Il y a des solutions beaucoup plus simples. Je ne dis pas que tout est miraculeux, mais on peut quand même faire des choses beaucoup plus simples. Déjà, il faudrait...
Rassurez-nous alors.
Non, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'en moyenne, on perd 40% de l'eau par les pertes dans les tuyaux. Donc l'eau potable, par exemple, le rendement moyen en France, mais dans le département c'est pareil, c'est de l'ordre entre 50 et 60%. Le législateur a fixé des valeurs minimales de 70%. Les réseaux ruraux, qui sont longs, qui sont souvent anciens, on n'y arrive pas. Et les collectivités n'ont pas forcément les moyens de mettre beaucoup d'argent là-dedans, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont payé l'eau, paye l'eau. Donc voilà. Bon, du coup, la réflexion sur les intercommunautés qui se sont mises en place depuis quelques années, qui ont des moyens et qui devaient récupérer le réseau d'eau potable en exploitation, c'est une source aussi de technicité meilleure, de plus de moyens et de regrouper. Et là, bon, je pense à la régie des eaux de P2A, par exemple. Bon, ben, ils font un travail sur les réseaux ruraux qu'ils ont récupérés récemment, qui est extraordinaire, quoi. Mais c'est vrai que ça coûte cher, mais ça demande de la technicité, ça demande un peu de temps aussi, parce que bon, il faut diagnostiquer. Mais là, une des pistes d'amélioration et pour combler l'augmentation des besoins, c'est déjà de récupérer l'eau qu'on capte naturellement et d'éviter de la perdre dans le sol, quoi. Après, on peut effectivement être plus économe, chacun de manière individuelle. Et puis, il y a peut-être des usages qu'on peut rationaliser aussi, au niveau je pense aux hôpitaux, aux grosses collectivités. Il y a sûrement des économies à faire dans les gestes au quotidien. Bon, ça, tout le monde peut le faire. Et puis après, il y a aussi, faut savoir que dans le département, il y a quand même 70%, voire 80% de l'eau qui est consommée par l'agriculture. On est un petit département au niveau humain, mais on est un gros département agricole. Et là, c'est pareil. Moi, je ne jette pas la pierre aux agriculteurs. Ils sont dans un système où il faut qu'ils vivent, mais on peut trouver des systèmes un peu plus économes, peut-être faire évoluer les variétés qui sont plantées, qui sont moins consommatrices, peut-être faire évoluer le type d'irrigation aussi. Bon, on parle beaucoup du goutte à goutte, mais on ne peut pas mettre du goutte à goutte sur du maïs, par exemple, ce n'est pas possible. Mm-hmm. Donc, du coup, il y a plein de choses qui suivent. Et je pense que c'est en co-construisant les solutions qu'on arrivera à consommer moins et donc à absorber ce déficit qui se profile au niveau de la ressource en eau, quoi. Et moi, je milite pour la collégialité, pour la discussion. Il faut surtout pas opposer les gens les uns aux autres. Quand j'entends parler, là, on se dispute sur l'histoire des bassines, des réservoirs. Par exemple, pour moi, si vous voulez, une bassine, c'est une mauvaise solution parce que vous mettez de l'eau dans une bassine, elle s'évapore et puis après, on ne sait pas comment on va la récupérer. Alors que si quelqu'un me dit, moi, j'ai besoin d'une bassine parce que je change de système et pendant 5 ans ou 10 ans, il me faut une bassine pour pouvoir passer le cap et qu'il change vraiment de système, ben on peut dire oui, ok, on vous aide. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des réflexions globales. Il faut que les solutions, on ne s'en sortira pas si chacun tire la couverture à lui. Mmh.
Bon, bah je vous propose qu'on fasse la première pause musicale.
Ok, et on va écouter donc Serge Lama.
Serge Lama, l'eau de vie.
Allez.
Quels sont les prénoms de la France qui résonne dedans nos cœurs, de la Dordogne à la Durance, ce sont les hymnes du bonheur. Quand elle descend des collines, qu'elle tourne autour d'un vieux château, pour se faufiler en ondine, dans les ruelles d'un ruisseau. Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau de mon pays. Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau de vie. Parfois elle devient mauvaise, elle se heurte à trop de béton. C'est de la boue, c'est de la glaise qui envahissent nos maisons. C'est la débâcle, le désordre, quand elle est lasse de son lit. Elle sort tous ses chiens pour nous mordre et fracasser notre midi. Elle est rebelle l'eau, elle est rebelle l'eau, elle est rebelle l'eau quand elle s'ennuie. Elle est rebelle l'eau, elle est rebelle. Et le grand coup de rein du Rhône, ce bel athlète de combat, qui court vite applaudir la faune, l'oiseau dingo dans son delta. Mais moi je sais que l'eau est l'âme, l'avenir de nos pauvres vies, que de partout on la réclame, à cœur, à corps, à mort, à cri.
Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau de mon pays. Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau de vie. Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau de mon pays. Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau de vie. Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau de mon pays. Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle.
Un moment pour la Terre avec France Nature Environnement, donc Lisa Cunier et Pierre Gottardi. On continue avec ces bonnes oui. et ces mauvaises nouvelles sur l'eau et la sécheresse.
On continue, donc bon, d'abord quand même encore un petit peu de mauvaises nouvelles. Enfin, je ne sais pas à quel point on peut dire que ce sont les nouvelles, puisque en vrai, ce sont les choses qu'on sait depuis assez longtemps, mais ce sont les choses auxquelles on voudrait, au niveau des FNE 04, attirer vraiment l'attention. Notamment, nous avons fait une journée technique pour les élus et les techniciens du bassin versant de la Bléone sur la thématique des changements climatiques sur le bassin versant de la Bléone, donc sur notre rivière, sur notre département, pour... et essayer de donner vraiment une vision plus large, une image globale de ce qui se passe et surtout des conséquences que ça peut avoir. Donc évidemment, avant tout, on pense aux conséquences que ça va avoir sur notre vie, sur nos activités. Quand on parle du manque d'eau et des stades de crise, bah, on peut même réfléchir à notre survie, puisque en effet, à un moment, s'il n'y a plus d'eau, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être une situation très compliquée. Mais aussi, on voulait parler des impacts que ça peut avoir sur les milieux. Puisque, les changements climatiques, les sécheresses, le manque d'eau, tout ça, on peut l'imaginer, mais on voulait pousser un peu plus loin et se poser la question de, concrètement, sur les rivières, sur les zones humides autour des rivières, quelles conséquences ça peut avoir? Et du coup, nous avons invité les chercheurs. Donc, nous avons eu des intervenants du Grec Sud, les chercheurs de l'IRSTEA, les chercheurs de la Tour du Valat, de la Maison régionale de l'eau, qui nous ont parlé des conséquences des changements climatiques sur les écosystèmes. Donc, bon, avant tout, quand on dit la hausse de température, alors évidemment, l'impact sur les rivières, ça peut être déjà l'impact direct. Donc, c'est la hausse de la température de l'air, mais donc la hausse de la température de l'eau. Et plus il fait chaud, plus on a d'évaporation de notre cours d'eau ou du lac. Donc ça veut dire déjà moins de volume d'eau qu'on va avoir dans les rivières et dans les lacs. Ensuite, la hausse de température, ça va entraîner également la fonte avancée de la neige dans l'année. Donc ça veut dire qu'on va avoir les débits réduits des cours d'eau au printemps et en été. Donc il y a déjà un décalage des débits dans l'année. Ensuite, comme Pierre a dit, si on a globalement moins de neige qui tombe, si on a moins de stock de neige, ça va impliquer aussi les étiages plus importants par la suite dans la rivière. Il y a moins de neige qui va fondre, donc il y aura moins d'apport de neige dans les rivières. Et aussi, du coup, tout ça, la hausse des températures plus tous ces phénomènes-là, ça va entraîner une augmentation du risque et de la durée des assèchements des cours d'eau. C'est-à-dire qu'on pourra voir plus souvent et pendant plus longtemps nos cours d'eau, surtout dans notre région, à sec, sans eau. Comme c'est déjà le cas sur certaines rivières, c'est vrai que cette année, déjà l'As, on l'a vu à sec, à oraison. Il y avait pas d'eau à un moment. Donc ça risque de prolonger, de durer et d'arriver plus souvent. Et du coup dans les rivières, la vie dans les rivières. Donc déjà on a la vie les poissons et les invertébrés qui vivent dans l'eau même. Donc eux ils seront aussi directement impactés par ces changements. Si on dit la température plus haute, ça veut aussi dire moins d'oxygène dans l'eau. Parce que du coup, il y a le lien direct. Et les poissons, et surtout les invertébrés aquatiques aussi, qui aiment l'eau fraîche et qui ont besoin de beaucoup d'oxygène, ils vont avoir beaucoup de mal à déjà s'adapter. Probablement, ils n'auront pas le temps de le faire puisque ces changements arrivent beaucoup trop vite. Du coup, ils vont essayer de migrer vers le nord, là où l'eau est plus fraîche, où il y a plus d'oxygène. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le glissement des espèces vers le nord. Alors c'est par exemple le cas de la truite fario, du barbeau méridional, du chabot. Mais la question se pose, c'est s'ils n'ont pas la possibilité de migrer. Donc pour les espèces qui sont en limite de leur aire de répartition, ça va entraîner très probablement la disparition. Voilà. Et donc aussi, dans la rivière, moins d'invertébrés, ça veut dire moins de nourriture, puisque les invertébrés sont souvent un maillon très important de la chaîne alimentaire dans les rivières. Donc ça va aussi impacter toutes les autres espèces qui se nourrissent des invertébrés, et ça va réduire, ça va entraîner globalement la réduction des espèces, du nombre... nombre d'espèces, de la diversité, oui, merci, qui sont présentes dans les rivières. Et ça va également aussi avoir des impacts, bien sûr, sur les zones humides. Donc, Pierre, je ne sais pas si vous souhaitez parler des zones humides, du coup, de la ripisylve et aussi des invertébrés et reptiles et autres.
Mais en fait, oui, la diminution des débits dans les cours d'eau va forcément limiter les zones mouillées ou humides. Et donc, on va avoir des impacts directs sur les ripisylves et donc les forêts rivulaires, hein, celles qui poussent au bord des cours d'eau, qui sont en fait un espace de transition entre le milieu aquatique et les milieux terrestres secs, quoi. Voilà. Et qui sont des milieux très importants parce que c'est toujours dans les zones de transition qu'on a la plus grande richesse de biodiversité, hein. Que ça soit des batraciens, que ça soit des insectes, enfin, on a forcément, c'est des zones où il y a beaucoup de richesses, quoi. Et donc là, effectivement, on va avoir des impacts directs. Et c'est vrai que, comme l'a dit Lisa, toutes les espèces ne peuvent pas migrer pour avoir de l'eau plus fraîche. Hein, quand on pense aux truites fario, il y a un moment donné, elles remontent, parce qu'on a déjà constaté qu'elles remontaient. Alors, elles remontent plus tard qu'avant. Parce que c'est la température de l'eau qui déclenche la ponte, donc les truites femelles qui vont pondre, elles remontent plus tard qu'avant. Déjà, on a perdu un mois et demi, c'est-à-dire qu'elles remontent maintenant au mois de novembre, alors qu'avant c'était plutôt fin septembre. Et mais il y a un moment donné, elles vont être en limite de capacité de remonter. Enfin, je pense à la Bléone, il y a un moment donné, on arrive sous l'Estro, il y a une cascade, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Voilà. Et c'est partout comme ça, quoi. Alors, et on voit le glissement, ce que disait Lisa, le glissement, on le voit déjà parce qu'il y a des espèces d'eau plus chaude qui suivent derrière, qui remontent elles aussi pour être à la température optimale, quoi. Donc les poissons d'eau chaude qu'on avait dans la basse Durance ou dans le Rhône, on les voit remonter dans la moyenne Durance, voire dans la Bléone, quoi. Donc petit à petit, quand ils peuvent franchir les obstacles anthropiques, les barrages et autres, on les voit remonter sans problème, quoi. Voilà. Et c'est vrai que l'impact sur les ripisylves risque d'être important, et sur la biodiversité locale, quoi.
En fait, les plantes, quand il y a des changements climatiques, les plantes, bon, je vais utiliser ces mots-là, même si scientifiquement parlant, c'est pas tout à fait correct, les plantes vont essayer de migrer aussi. Bon, pas vraiment essayer, c'est un processus qui se passe naturellement, il y a peut-être pas forcément de l'intention de leur part. Mais bon, pour les plantes, la migration, c'est compliqué. Évidemment, les plantes vont tenter, enfin, leur migration va se passer par la dissémination. Donc, ça veut dire que leurs graines qui sont disséminées, si dans d'autres endroits, il y a des températures plus favorables par rapport à leur optimum biologique, bah, du coup, c'est là que ces espèces-là vont pousser. Et là où elles poussaient avant, bah, à force, elles vont peut-être disparaître puisque du coup, les températures ou les conditions en général ne vont plus correspondre. Mais du coup, ailleurs, ces espèces-là pourront pousser. Donc, en fait, c'est ça la migration des plantes. Et du coup, ce qui risque de se passer avec les ripisylves, mais bon, je pense qu'on peut dire avec nos forêts globalement, c'est que les arbres n'auront pas le temps de migrer, puisque voilà, vu qu'ils ne peuvent pas, se déplacer, bah, leur migration, c'est très long. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc du coup, il y a des espèces qui risquent de disparaître, qu'on risque de perdre. Et en général, les hausses de température, très probablement, ça va intégrer la dégradation de la ripisylve, des arbres qui poussent au bord de la rivière, qui est, elle, très importante, puisque du coup, elle contribue aussi au fait de retenir l'eau dans le territoire. Avec les racines, avec les sols qui sont fertiles, on peut retenir plus d'eau dans la terre. Donc c'est cette eau-là aussi qui va nous aider pendant la période sèche. Et s'il y a les arbres qui poussent, ça limite la température, la hausse de la température sous ces arbres-là. Donc du coup, ça aide à ralentir un peu l'évapotranspiration et du coup, ça aide à avoir plus d'eau. Donc si on a la dégradation de la ripisylve, si on a moins d'arbres qui poussent à côté de nos cours d'eau, s'il y a moins d'ombre, s'il y a moins de racines, si les sols sont moins fertiles, puisque pas d'arbres, ça veut dire aussi l'érosion du sol. Donc si nos sols deviennent moins fertiles, aussi ça veut dire moins d'eau disponible dans notre territoire. Et c'est ce que le Grec Sud disait, c'est que pour l'instant, de ce qu'on peut prévoir, alors d'ici 2050, on risque d'avoir 20 à 30% moins d'eau disponible dans notre région. Et d'ici 2100, on risque d'avoir jusqu'à 50% moins d'eau disponible dans notre région. Voilà. Et aussi, ça c'était dans l'étude de la Tour du Vala, que jusqu'à 60% d'espèces des zones humides de montagne risquent de perdre la totalité de leur habitat entre 2050-2080. Voilà.
Trop pessimiste. Mais bon. Non, mais c'est vrai que les ripisylves constituent un cortège, et effectivement, c'est des milieux tronqués. Et le fait de garder l'eau et ça permet effectivement d'avoir de l'ombre et donc de limiter la température. Il faut savoir quand même que l'été, dans un cours d'eau, dans un lit, comme la Bléone ou celui de l'As, hein, qui sont des lits très larges, où il y a des bandes, ce qu'on appelle la bande active, donc la bande en cailloux, où il n'y a pas de buisson. Quand vous allez l'été, les cailloux sont à 45, 50 degrés des fois. Hein. On a du mal à marcher pieds nus. Hein. Si on fait baisser à 40 degrés, on a de l'évaporation importante. Si effectivement on est ombragé, effectivement, si l'eau elle passe à l'ombre, elle chauffe beaucoup moins et du coup, il y a moins d'évaporation, donc on garde tout ça, quoi.
Pour le confirmer, quand on fait les interventions avec les élèves des écoles, cette année on en a fait sur l'As, on a mené les élèves de l'As à la rivière, et justement on avait une petite expérience scientifique. On mettait les thermomètres, un thermomètre on le mettait en plein soleil et l'autre on le mettait sous les arbres pour comparer la température, et il y a eu des jours, parce qu'au mois de mai on en a eu des jours très très chauds. Alors je me souviens, sous les arbres, encore dans la matinée, hein, sous les arbres on était à 23 degrés et au soleil on était à 46.
C'est QFD.
du coup je vous propose qu'on fasse la deuxième pause musicale et qu'on écoute Georges Moustaki, Il y avait un jardin.
C'est une chanson pour les enfants qui naissent et qui vivent entre la scie et le bitume, entre le béton et l'asphalte. Ils ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin. Il y a avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour. Et un petit ruisseau roulant sans une vague venait le rafraîchir et poursuivait son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères. Le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Où est cette maison, toutes portes ouvertes, que je cherche encore et que je ne trouve plus? La la la, la la la, la la la, la la la.
Il y avait un jardin, Georges Moustaki. On reprend donc sur... la sécheresse, le manque d'eau.
Bah, on va surtout reprendre sur les solutions, puisque alerter, c'est bien, mais proposer des solutions concrètes,
c'est mieux.
Des choses qu'on peut réellement faire tous, c'est vraiment mieux.
Ouais.
Du coup, Pierre, je vous laisse la parole pour en parler.
Oui, merci. Je pense qu'effectivement, on dit toujours que la meilleure défense, c'est l'attaque. Je pense qu'effectivement, il faut anticiper. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait qu'on va vers des années difficiles. Et je pense qu'il faut vraiment, trouver des solutions. Et ça, c'est de manière, il faut qu'on réfléchisse de manière collégiale, mais trouver des solutions à l'échelle de chaque bassin versant. Et moi, je prône que, aujourd'hui, dans le département, on a un comité départemental de gestion collégiale de l'eau qui a été instauré il y a quelques années. Et moi, je suggère qu'il y ait une déclinaison de ce comité départemental qui a une composition où tout le monde assiste. Et on devrait avoir une déclinaison de ça dans chaque bassin versant, hein, sur la Bléone, hein, sur l'As, sur le Largue, etc., comme fait d'ailleurs le parc du Verdon avec le Sage Verdon, où on a une commission eau du parc, avec une commission locale de l'eau, qui est le parlement de l'eau à l'échelle du bassin versant, où tout le monde se parle, tout le monde cherche des solutions, et en mettant ensemble des moyens, on arrive à... Alors, bon, on y va tout doucement, mais on peut progresser. Et donc, ça serait bien qu'effectivement, on amorce ces réflexions dans chaque bassin versant, surtout que le département est très structuré en termes de syndicats de gestion des cours d'eau ou en termes d'intercommunautés qui ont pris cette compétence. Et c'est là où on peut trouver des solutions. On met les problèmes sur la table, on voit de quelle manière on peut améliorer les solutions, on peut améliorer déjà la situation, trouver des solutions. Après, souvent, on bute sur l'aspect financier, mais si on y va en ordre dispersé, voir l'agence de l'eau ou l'État ou la région, on a beaucoup moins de chances d'aboutir que si on y va de manière collégiale en disant, voilà, on s'est mis d'accord sur tel programme, voilà ce qu'on propose de faire, on analyse ça de manière objective et les financeurs peuvent le faire, et à ce moment-là, on peut avancer, grouper, et moi, j'estime que toutes les solutions sont bonnes à prendre à condition qu'elles aillent dans le sens de la collégialité, de la gestion globale, quoi. Mais il faut impérativement arriver à changer l'état d'esprit. Aujourd'hui, chacun cherche sa solution dans son coin. Vous avez des agriculteurs qui veulent faire une bassine dans leur coin, ils ne demandent rien. Il y a des gens qui veulent faire des conversions de canaux gravitaires ou d'aspersion. Tout ça, il faut que ça soit mis dans un paquet commun, de façon à ce qu'on puisse avoir une gestion de l'eau qui soit à la fois transparente. Parce que l'eau, c'est un bien commun. C'est le bien commun de la nation. C'est marqué dans le code de l'environnement. C'est marqué y compris dans la Constitution. Donc, c'est très important et qu'on puisse dire, ben oui, on fait bien. Voilà. Et on le démontre, quoi. Et moi, ça me semble le béaba de la réflexion, de se mettre autour d'une table et de discuter. Alors, il y a des amorces de discussions qui ont été faites dans certains bassins versants. On a des plans de gestion qui ont été mis au point. Mais il faut aller au-delà. C'est-à-dire qu'on a fait des plans pour trouver des solutions pour régler une situation à un moment donné. Sauf qu'on s'est pas projeté dans l'avenir. Il faut aller plus loin pour dire sur le territoire en question, comment on fait pour s'adapter à 15 ans, 20 ans, 30 ans. Si on veut préserver un outil agricole qui permet de manger, parce qu'il faut aussi penser à notre alimentation locale ou moins locale, face à voilà. Et donc il faut bien penser à ça. Il faut penser donc à cette activité qui est une activité économique importante. Il faut penser à d'autres activités économiques comme le tourisme, parce que bon, ça fait quand même vivre une variété des gens dans le département. Donc tout ça, on peut le mettre sur la table. Et puis en face, on met des paramètres et puis on dit, voilà, comment on fait ? Là, on peut faire ça, là, on peut pas. Bon, mais si on peut pas, on trouve des solutions alternatives. Et il n'y a qu'en étant tous ensemble. Plus on a de cerveau autour d'une table, plus on a des chances de trouver des solutions. Et moi, je pense que le cerveau, c'est quelque chose qui ne coûte rien à faire fonctionner. On mange un petit peu à midi et puis on a du cerveau qui fonctionne. Et ça, c'est important. Et il me semble, moi, qu'on manque un petit peu de réflexion collégiale. Voilà. C'est pour ça que le GECO, alors j'insiste beaucoup parce que bon, j'étais aux affaires quand on en a parlé, mais quand on a créé ça, mais le GECO est important. On a appris à se parler dans le département, ça a été reconnu lors des assises de l'eau qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps. Et il faut faire vivre ce type d'institution pour justement travailler ensemble. Moi, j'ai pas d'autres mots.
Le changement de comportement, tous ensemble, en effet, c'est très important. Quand on intervient dans les écoles aussi, je leur parle de mon enfance. Je leur dis, je me souviens, quand j'étais petite, pour me brosser les dents, je laissais le robinet ouvert, je laissais l'eau couler. Et ils me regardent tous, mais avec des yeux. Oh, comment, madame, vous faisiez ça? Voilà, ça montre... Bon, là, peut-être que les changements ont pris un peu trop de temps à se mettre en place. Là, en fait, ce qu'il faut surtout se dire, c'est que le changement de comportement, là, il faut qu'on le fasse rapidement, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour agir. Et il faut qu'on anticipe, il faut qu'on le fasse, mais il faut qu'on le fasse tous ensemble. C'est en effet sans remettre la faute les uns sur les autres. Il faut juste se dire qu'est-ce que nous, chacun de nous, peut faire. Et du coup, changer de comportement, changer d'habitude, privilégier dans tout ce qu'on fait, dans toutes nos activités, privilégier les pratiques plus économes, moins gourmandes en eau, et aussi bien penser aux cours d'eau, aux zones humides, et à restaurer leur bon fonctionnement, restaurer leur état écologique. C'est très important, puisque en fait, c'est pas juste la nature que nous, l'association de protection de la nature, on aimerait bien voir autour de nous, mais ce sont surtout nos alliés. Ils nous aident dans tout ce qu'on fait, et du coup, c'est très important d'y penser. C'est très important de les prendre en compte dans toutes nos activités et se dire si on maintient nos cours d'eau en bon état, les zones humides en bon état, c'est ça aussi qui va nous aider dans toutes nos activités d'ici 2050 ou 2100. Voilà, sur ce, on va finir notre partie sur la sécheresse. Donc nous espérons que voilà notre message de l'importance d'agir maintenant sera entendu. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais juste faire l'annonce de nos événements à venir. Donc cette semaine, elle est très chargée pour nous, puisque vendredi et samedi, nous allons faire notre chantier participatif de plantation de la microforêt à la butinerie à Villeneuve. Et ils me regardent tous, mais avec des yeux. Oh, comment, madame, vous faisiez ça? Mais voilà, ça montre... Bon, là, peut-être que les changements ont pris un peu trop de temps à se mettre en place. Là, en fait, ce qu'il faut surtout se dire, c'est que le changement de comportement, là, il faut qu'on le fasse rapidement, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour agir. Et il faut... qu'on anticipe, il faut qu'on le fasse, mais il faut qu'on le fasse tous ensemble. C'est en effet sans remettre la faute les uns sur les autres. Il faut juste se dire qu'est-ce que nous, chacun de nous, peut faire. Et du coup, bah changer de comportement, changer d'habitude, privilégier dans tout ce qu'on fait, dans toutes nos activités, privilégier les pratiques plus économes, moins gourmandes en eau, et aussi bien penser aux cours d'eau, aux zones humides, et à restaurer leur bon fonctionnement, restaurer leur état, bon état écologique. C'est très important, puisqu'en fait, c'est pas juste la nature que nous, l'Association de protection de la nature, on aimerait bien voir autour de nous, mais ce sont surtout nos alliés. Ils nous aident dans tout ce qu'on fait, et du coup, c'est très important d'y penser, c'est très important de les prendre en compte dans toutes nos activités et se dire si on maintient nos cours d'eau en bon état, les zones humides en bon état, bah c'est ça aussi qui va nous aider dans toutes nos activités d'ici 2050 ou 2100. Voilà, bah sur ce, on va finir notre partie sur la sécheresse. Donc nous espérons que voilà notre message de l'importance d'agir maintenant sera entendu. Et il nous reste 2 minutes. Je voudrais juste faire l'annonce de nos événements à venir. Donc cette semaine, elle est très chargée pour nous, puisque vendredi et samedi, nous allons faire notre chantier participatif de plantation de la microforêt à la butinerie à Villeneuve. Donc vendredi, nous avons déjà beaucoup de scolaires qui vont venir, mais tout le monde est bienvenu le samedi pour nous donner un coup de main, pour nous aider à planter les arbres. Et nous avons toujours notre campagne de dons en cours où on peut parrainer les arbres ou même les offrir à Noël avec un certificat de parrainage si vous n'avez pas de cadeau pour Noël. Également, le samedi 3 décembre, il va y avoir la projection débat autour du film Secret Toxique à la salle du cinéma d'Aimé à 17h30. Donc là, justement, les discussions vont tourner autour de la pollution de l'eau potable sur la commune du Castellet par les pesticides interdits. Et du coup, l'urgence à changer de modèle agricole et à repenser à l'usage et au partage de l'eau, qui est le bien commun à protéger. Donc c'est très dans la thématique dont nous avons parlé aujourd'hui. Et nous avons aussi le nouveau projet régional Les Sols Vivants, qui va être lancé là le 9 décembre. On a aussi une réunion au mai. N'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse. Le 13 décembre, on va aussi faire la visite d'une exploitation sur le territoire du canal de Manosque, pour justement parler de l'arrosage et notamment des techniques différentes. Là, c'est la technique d'irrigation à basse pression qui va nous intéresser.
Et oui, ça va certainement être très intéressant, justement. Merci Lisa Cunier et Pierre Gottardi donc pour cette émission très intéressante. Et on se retrouve le mois prochain, fin janvier.
Fin janvier, voilà. Merci beaucoup Odile.
Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.